Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonsoir à tous et bienvenue, très heureux de vous retrouver pour Soir Info Weekend. On décrypte l'actualité, on débat ce soir avec vous. Johan Usaï, bonsoir.
Bonsoir Olivier. Johan.
À votre droite, Jean Messia, bonsoir Jean, bonsoir, président de l'Institut Apollon. Bonsoir Karim Abrik.
Bonsoir.
Vous êtes bien entouré ce soir.
Ah oui, il faut.
Exactement.
On va débattre.
Effectivement.
À votre droite, Philippe Guibert, enseignant, consultant. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Olivier.
Jean-Michel Fauvergue, bonsoir Jean-Michel.
Bonsoir Olivier.
Ancien patron du RAID, bien évidemment, on ne vous présente plus. Dans un instant, le sommaire de l'émission, mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, ma chère Isabelle Piboulot.
Emmanuel Macron a réuni son conseil de la politique nucléaire à l'Élysée. Le chef de l'État souhaite tenir le cap de la relance accélérée de la filière, un chantier prioritaire face aux crises énergétiques et climatiques. Pour l'heure, la présidence n'a pas fait d'annonce sur le calendrier de construction de 6 nouveaux réacteurs EPR2. Les premières mises en service doivent avoir lieu d'ici 2035 au plus tard. Le chef de la diplomatie américaine reporte sa visite à Pékin. Anthony Blinken devait s'y rendre dimanche et lundi. Ce report fait suite à la détection hier d'un ballon espion chinois présumé dans l'espace aérien des États-Unis. Malgré les regrets de la Chine, Anthony Blinken dénonce un acte irresponsable. Sa visite sera reprogrammée quand les conditions seront réunies. Le monde de la mode pleure Paco Rabanne. Le couturier espagnol s'est éteint à l'âge de 88 ans à Port-Salle, près de Brest, où il vivait. Le créateur était connu pour son excentricité et sa vision audacieuse. Emmanuel Macron et son épouse saluent un artiste hors norme qui fit souffler un vent de renouveau dans le monde de la haute couture.
Merci Isabelle, et la mort de Paco Rabanne, on en parlera justement en fin d'émission avec cette fameuse robe de Françoise Hardy. On aura un sujet qui nous la montrera. Des souvenirs, vous nous direz d'ailleurs quels souvenirs.
Émus.
Souvenirs émus. Soir Info au sommaire ce soir. Le début des vacances pour les Français de la zone A, dans un contexte de grève contre la réforme des retraites. Des manifestations prévues mardi et samedi prochain. Samedi, jour du chassé-croisé. Alors, les départs en vacances vont-ils être gâchés? Les syndicats ne risquent-ils pas de se mettre l'opinion à dos? Et cette question, faut-il interdire la grève pendant les vacances comme en Italie? L'avis de nos invités ce soir. Le terrible dénouement après la disparition de Siem, la jeune femme retrouvée morte. Le principal suspect est passé aux aveux. Âgé de 39 ans, c'est un délinquant multirécidiviste condamné à 12 ans de prison. Il n'en a fait que 3 derrière les barreaux. Alors la justice a-t-elle fait son travail? On en débat dans cette émission. Nous reviendrons également sur le profil du suspect. La psychologue Inès Gauthier sera en liaison avec nous. Et puis, selon un premier bilan du ministère de l'Intérieur, les délits pour usage ou trafic de stupéfiants ont augmenté en 2022, une hausse néanmoins inférieure à celle de 2021, une montée liée à l'instauration de l'amende forfaitaire délictuelle en cas de consommation de stupéfiants. Alors, comment lutter contre les trafics et la consommation? La légalisation des drogues douces, comme le préconisent certains, une fausse bonne idée. Nous entendrons le témoignage de Gabriel, un ancien toxicomane, et il alerte aujourd'hui sur les dangers de l'addiction. La parole à vous dans un instant, mais avant, on marque une très courte pause. A tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez, toujours avec Johan Usaï, Jean Messia, Philippe Guibert, Karim Abrik et Jean-Michel Fauvergue. Et ce sont donc les vacances de février ce soir pour les élèves de la zone A, en plein contexte de manifestations contre la réforme des retraites. Les services de transport sont menacés. Il y a la prochaine manifestation, elle est prévue mardi prochain, et celle aussi le week-end prochain. un jour de départ de chassé-croisé. Un chassé-croisé qui pourrait être compromis, on le verra. Pour le moment, pas de consensus chez les syndicats. Mais cette question, faut-il interdire la grève dans les transports pendant les vacances? C'est le cas en Italie. Voyez ce sujet de Dorine Jarnias, Sacha Robin et Mathilde Couvillers-Flournoy. Et puis on en parle ensuite autour de ce plateau.
Faut-il interdire la grève dans les transports en commun pendant les vacances scolaires? Selon un sondage CSA pour CNews, 57% des Français s'y opposent, contre 43% qui souhaiteraient que la grève soit interdite.
La grève, c'est un droit primordial en France, donc je pense que oui, ce serait aller trop loin, mais instaurer un service minimum, ce serait, je pense, pratique pour beaucoup plus de personnes.
C'est un droit de grève, je vois pas pourquoi ça serait interdit pendant les vacances scolaires.
Le principe aussi de faire la grève, c'est d'essayer de rallier les gens à la cause et de faire entendre parler de ce qui va pas, donc quoi de mieux que d'annuler les vacances des gens, finalement.
Le sujet divise également selon les différentes tendances politiques. À gauche, 75% sont contre une interdiction de grève. À droite, ils sont 52% à partager cet avis. Alors que chez les centristes, ils sont seulement 44%. Pour cette députée, les grèves ne doivent pas paralyser la France en période de vacances.
J'ai déposé cette proposition de loi pour que la grève soit interdite pendant les vacances scolaires, parce que je considère que les Français doivent avoir ce droit de voyager en toute liberté.
Pour rappel, une grève ne peut pas être interdite sauf dans quelques cas d'atteinte à l'ordre public. Les syndicats de la RATP et de la SNCF appellent à la grève les 7 et 11 février prochains.
Alors on le voit, Yohann Uzaï, 57% des Français contre l'interdiction de grève. Ils y sont attachés, on entendait les témoignages dans le reportage, 52% d'ailleurs à droite. Cela montre effectivement que la majorité des Français sont attachés à ce droit. Alors c'est vrai qu'on se pose la question ce soir, est-ce qu'il faut interdire les grèves pendant les vacances? On sait que politiquement, la question, elle est très compliquée.
Elle est plus que compliquée. Alors il y a deux choses. D'abord, le timing politique. Est-ce que c'est le bon moment de mettre ce sujet-là sur la table? D'abord, rappeler que ce n'est pas le gouvernement qui fait cette proposition. C'est une proposition de loi, ce qui veut dire qu'elle émane du Parlement. C'est une députée qui propose cela. Clément Beaune, ce matin, semblait quand même aller dans ce sens-là. Le ministre des Transports disait, effectivement, il faudrait peut-être un peu changer les choses, parce qu'on voit bien que certains usent du droit de grève, précisément pour pénaliser le plus possible les usagers, notamment à la SNCF, et ça pose problème. Ce que dit Clément Beaune, il le dit d'une manière un peu particulière, il dit oui, on pourrait effectivement peut-être interdire les grèves pendant certaines vacances, mais il faudrait trouver un accord avec les syndicats. Pensez-vous, est-ce que vous allez trouver un accord avec les syndicats? Donc en fait, le ministre dit quelque chose qui, de ce point de vue-là, n'a pas beaucoup de sens. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce qu'il souhaiterait effectivement interdire les grèves pendant les vacances, mais il sait bien que c'est impossible. C'est impossible parce que trouver un accord, on vient de le dire, avec les syndicats, évidemment, c'est voué à l'échec avant même le début des négociations. Et puis c'est voué à l'échec parce que c'est un droit constitutionnel, ce qui voudrait dire qu'il faudrait réformer la Constitution, aller chercher une majorité de 2/3 des parlementaires qui voudrait réformer le droit de grève, qui est un droit auquel les Français sont effectivement et, il me semble, légitimement très attachés. Donc, désolé un peu de tuer votre débat dans l'œuf, mais... Réformer le droit de grève en France, c'est quelque chose qui relève de l'impossible.
Karima, c'est pas là que ça se joue, ça se joue.
Non, mais c'est ça, moi je pense que ça se joue sur la question des services essentiels, le service minimum. Parce que le droit de grève, effectivement, bon, tout le monde accepte d'emblée, mais le droit de grève ne doit pas se substituer, en fait, ne doit pas être tout puissant non plus. Il y a d'autres droits fondamentaux dans la Constitution. Vous avez le droit de subvenir à vos besoins, aux besoins de votre famille. Vous avez le droit de vous déplacer.
La liberté de circuler.
Oui, mais il y a même une question de sécurité. Il y a des gens qui doivent se déplacer, oui, pour aller au travail, comme je dis, pour subvenir aux besoins de la famille. Mais si vous avez à vous faire soigner, à avoir des traitements pour votre cancer, pour problème de santé important, vous n'avez pas de voiture, ben, il y a une atteinte profonde à ce droit-là, à cette possibilité d'aller se faire soigner. Donc, moi, je pense que vraiment, ça doit se jouer sur la question des services essentiels. Et comme je le dis, le droit de grève, certes, mais le problème, c'est que si le blocage devient systématique et si le blocage fait en sorte qu'à chaque fois, le gouvernement recule, eh bien, il n'y a aucune mesure impopulaire qui peut être votée par un gouvernement. Et d'un autre côté, le fameux droit de grève éternel et à tout moment et dans toutes circonstances, sans aucun service minimum et peut-être même de service minimum qui pourrait être bonifié, eh bien, ça fait en sorte, effectivement, que ça donne un pouvoir disproportionné à certains corps de métier, un pouvoir de paralysie disproportionné. Donc moi, je pense qu'on devrait augmenter le service minimum, peut-être pas interdire pendant les vacances, mais oui, on peut augmenter le pourcentage de service minimum pour les transports, la santé.
Sur cette question du service minimum, on vous entend dans un instant, mais on va écouter Clément Beaune, le ministre des Transports. Pour lui, ça reste pas évident du tout, cette question de service
minimum. Mais ça se fait. Je vous le dis, ça se fait. D'autres pays, ça se fait.
On va l'écouter, on en débat.
Mais on est en France.
Oui, c'est ça, exactement.
Moi, je veux qu'on ait des réponses concrètes et pas des slogans. Le service minimum, si c'est un pourcentage de service, on sait que c'est extrêmement difficile à faire, parce que soit vous mettez un très haut pourcentage de service, et là, c'est une atteinte au droit de grève, qui est protégé heureusement par notre Constitution, soit vous mettez des taux de service, 10%, 20% des trains qui sont très bas, et en réalité, ça n'améliore pas vraiment la situation par rapport à ce qu'on connaît, même les jours de grève. Donc, ce qu'on regarde, il faut le regarder sérieusement pour avoir des vraies réponses pratiques pour les usagers.
Alors, pour rappel, c'est Nicolas Sarkozy qui avait fait voter une loi sur la continuité du service public dans les transports. C'était en 2007, une loi qui obligeait simplement les salariés à déclarer 48 heures avant s'ils comptent faire grève ou non, et permettre ainsi, en tout cas en théorie, de préparer un plan de transport pour les directeurs d'entreprise. Philippe Guibert, ça semble quand même tout de même très compliqué. Le ministre des Transports le disait lui-même.
Oui, puis au-delà de ça, moi je ferai trois remarques sur cette question des vacances. Les grèves, c'est fait pour gêner. Historiquement, la grève, qu'est-ce que c'est ? Vous empêchez l'entreprise de tourner. Aujourd'hui, le secteur privé ne peut plus faire grève. Vous êtes viré. C'est ça la réalité de la plupart des entreprises privées. Donc ça repose sur le public. Sinon, il n'y a plus de droit de grève en France. Et une grève, c'est fait pour gêner. Si une grève ne gêne personne, la grève ne sert à rien. Deuxième remarque, les vacances de février, je trouve que c'est un peu un mythe parisien. 31% seulement des Français, ce qui est déjà beaucoup, avait prévu au mois de janvier de partir en vacances en février. Et en réalité, pour partir au sport d'hiver, à part les Parisiens, l'absence de transport de train, par exemple...
Comme on peut aller en Bretagne, on peut aller en Normandie aussi.
Est peu gênante, dans la mesure où en province, on prend sa voiture pour aller au sport d'hiver. Si vous habitez à Lyon, vous avez une heure et demie de voiture. Et dans d'autres régions, vous pouvez être proche de montagne. Donc l'intérêt des TGV pour les vacances de sport d'hiver concerne principalement les Parisiens. Et du coup, j'ai oublié ma troisième remarque. Et donc,
je vous rafraîchirai la mémoire.
Mais fondamentalement, je trouve que c'est une discussion qui tourne un peu autour de la réalité du droit de grève. Parce que Karima, dans les hôpitaux, longtemps avant la pandémie, s'étaient mis en grève. Moi, je l'ai vécu de près à ce moment-là. Et ils mettaient un brassard et ils n'arrêtaient pas leur service. Parce que justement, c'était un hôpital, c'est vital. Et donc l'hôpital ne peut pas peut manifester son mécontentement, mais ne peut pas
en même temps, ça marche
faire
pas.
Grève. Et en même temps, ça marche pas parce que regardez l'hôpital, on s'en est pas occupé. Il n'y a pas eu de pression suffisante. Pourtant, il y a eu des manifs. Avant la pandémie, on est arrivé à la pandémie où tout le monde a vu l'état de l'hôpital. Et aujourd'hui, on est dans la situation qui est celle qu'on connaît. Donc, bien sûr, c'est pour les services vitaux, je comprends très bien ce que vous dites. Mais je ne crois pas que les vacances au sport d'hiver soient du domaine du vital.
Ce n'est pas question d'interdire, comme je disais, les grèves. C'est une question quand même de rétablir un certain équilibre entre les pouvoirs de chacun.
Oui, mais vous êtes dans un pays, c'était ça ma troisième remarque, vous êtes dans un pays où le gouvernement a décidé de ne pas négocier. Et donc, avec les syndicats, il a fait de la concertation d'affichage, ils l'ont tous répété, y compris les plus modérés des syndicats. Et en plus, il fait un débat parlementaire avec une procédure accéléré en utilisant éventuellement le 47.1 qui tombe en février. Et ce qui fait qu'il peut, le vote est prévu début mars, dans la première quinzaine de mars, avec l'essentiel du débat qui se passe en février. Donc s'il ne peut pas y avoir de grève en février, il n'y a pas de grève du tout.
Et le gouvernement, finalement, ce que nous dit Philippe Guibert, n'a pas suffisamment consulté les syndicats, ou en tout cas,
il n'a pas négocié
avec les syndicats.
Ça c'est sûr, mais ça, c'est une constante chez le gouvernement depuis le début de l'ère Macron, si je puis me permettre. Moi, ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est qu'on veut interdire les grèves pendant les vacances. Mais pourquoi seulement pendant les vacances ? Enfin, qu'est-ce qui explique que si on veut interdire la grève, comme si vous voulez, c'est assez paradoxal, c'est comme si, en fait, on pouvait s'accommoder des grèves pendant le temps de travail, alors qu'on sait très bien que ça rend l'existence infernale. Les gens sont obligés de se lever plus tôt, ils sont obligés de rentrer plus tard, s'entasser comme des bestiaux dans des trains bondés. Donc en fait, elle n'est pas plus acceptable, la grève, pendant qu'on bosse, que la grève pendant les vacances. Donc ça dit quelque chose de notre société.
On va marquer une courte pause. Jean-Michel, on va vous entendre dans un instant, notamment sur la prestation de la ministre Elisabeth Borne hier. Est-ce que ça a été un échec de la pédagogie ? et sur les grèves, vous direz un mot. On doit marquer juste une très courte pause et on vous écoute dans un instant. Restez avec nous, à tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de Soir Info Week-end. Bienvenue si vous nous rejoignez, toujours avec Johan Usaï, Jean Messia, Philippe Guibert, Karim Abric et Jean-Michel Fauvergue autour de ce plateau. On débat, on parle de l'actualité. On va revenir dans un instant sur ce terrible dénouement après la disparition de Siem et des interrogations, notamment sur le travail de la justice quand on voit le profil du suspect. Mais avant, on termine ce débat autour de la réforme des retraites et nous nous interrogions il y a quelques instants sur la question de la grève pendant les vacances. Est-ce qu'il faut l'interdire? On ne vous a pas entendu sur ce sujet, Jean-Michel. Alors, la grève pendant les vacances, on l'interdit ou pas?
Ben écoutez, moi, je suis assez de l'avis de se poser la question pourquoi l'interdire pendant les vacances et pourquoi pas l'interdire en dehors des vacances. Et puis, pour interdire la grève dans un moment donné, il faudra passer par la loi. Ça va être difficile avec les majorités actuelles d'arriver à faire voter ça. Puis la grève, c'est un droit qui est constitutionnellement protégé et donc c'est difficile de revenir dessus parce qu'effectivement, il faudrait toucher à la Constitution. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faudra quand même à un certain moment arriver à protéger les transports et en particulier les transports en commun et en particulier les réseaux ferrés si on veut avoir de moins en moins de voitures et si on veut que les gens prennent le train. Ben, il faut...
C'est ça la question de fond, c'est-à-dire que les gens puissent circuler pendant les grèves.
Donc vous voyez, il y a une espèce de paradoxe entre ces deux choses-là. Je voudrais terminer sur ce sujet en signalant qu'il y a des professions où le problème est réglé. Il y a des professions qui n'ont pas le droit de faire grève, comme par exemple les policiers et les gendarmes. Et d'autres professions, les militaires, bien sûr, évidemment.
Et d'autres qui ne peuvent pas, vous soulignez tout à l'heure, les soignants, effectivement. Je vous propose de revenir sur le grand oral, si je puis dire, hier, de la première ministre Elisabeth Borne. Elle a continué à faire de la pédagogie. C'était le cap affiché du gouvernement. Mais elle a eu... Elle a séché sur la question des apprentis. Regardez.
Les apprentissages seront pris en compte pour les carrières longues.
Ah, c'est une colle.
Très bien.
Ce qui est clair, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est clairement le cas. Est-ce que ça a toujours été le cas? Je ne sais pas vous dire, mais je vous donnerai la réponse.
Johan, la première ministre qui sèche, est-ce que c'est révélateur, au fond, d'une volonté de pédagogie qui n'est pas tout à fait au point?
Non, le fait qu'elle sèche sur cette question, ça n'est pas révélateur de quoi que ce soit, me semble-t-il. Elle peut avoir effectivement une petite lacune de ce point de vue-là. C'est un détail, en quelque sorte, de la réforme, même si ça compte effectivement pour bon nombre d'apprentis. Mais ça n'est pas révélateur. En revanche, ce qui est problématique pour le gouvernement, c'est effectivement le fait de faire de la pédagogie. C'est-à-dire que plus le gouvernement fait de la pédagogie, plus les Français sont hostiles à la réforme. Ouais. Donc, en l'occurrence... on se rend compte que ça ne fonctionne pas, mais ça ne fonctionne pas pour une raison qui est simple, c'est-à-dire que les Français ont compris qu'ils allaient devoir travailler plus. Point. C'est tout ce qu'ils ont besoin de comprendre. Ils ne veulent pas travailler davantage. Donc vous pouvez leur expliquer que oui, mais on va mettre ça dans la réforme, on va retirer ça, et vous allez avoir des meilleures pensions. Non, les Français ne veulent pas travailler davantage. Donc faire de la pédagogie, finalement, ce serait quelque part leur dire « mais vous avez mal compris, attendez, on va vous réexpliquer les choses ». Non, ils ne veulent pas travailler davantage. Donc arrêtez de faire de la pédagogie. Maintenant, le débat, il arrive au Parlement, mais les Français ont très bien compris ce qu'était cette réforme.
Dès lors qu'on a annoncé le report de l'âge légal à la retraite à 64 ans, c'était fini, plus besoin de pédagogie, Jean-Michel?
Si, bien sûr qu'il en faut de la pédagogie. Enfin, en tout cas, il faut de l'explicatif. Il faut de l'explication et c'est ce qu'a fait Elisabeth Borne hier, que moi j'ai trouvé courageuse. Alors effectivement, la difficulté, c'est de faire passer ces 64 ans dont personne ne veut. Évidemment, je rejoins Johan là-dessus, ça va être quelque chose de difficile. Mais il faut arriver, et c'était dans le ton hier, et j'ai vu un petit changement dans ce domaine-là. Il faut arriver à expliquer réellement les choses, à être transparent et à dire... On fait ça, on le fera, on va le faire, mais on va le faire parce que si on le fait pas, on n'arrivera pas à payer. Non,
alors Jean Messia levait les yeux au ciel quand vous parliez, Jean-Michel Fauvergue. Bah oui, vous allez me dire pourquoi, mais dans une minute, parce que c'est le rappel des titres. Il est 22h30, on va retrouver Isabelle Piboulot.
Censure, là. Ça range pour qu'à chaque...
2,2 milliards de dollars à l'Ukraine de la part des États-Unis. Une nouvelle aide militaire incluant des roquettes, ce qui pourrait quasiment doubler la portée de la force de frappe ukrainienne contre les Russes. Par ailleurs, la France et l'Italie livreront au printemps un système de défense sol-air pour aider l'Ukraine face aux attaques de drones, de missiles et d'avions russes. Le pape François appelle les dirigeants sud-soudanais à un nouveau sursaut en faveur de la paix. « Assez de sang versé », a proclamé le souverain pontife au premier jour de sa visite au Soudan du Sud. Le pays est notamment déchiré par l'extrême pauvreté et les luttes de pouvoir, malgré un accord de paix signé en 2018. Avant les JO 2024, la flamme olympique commencera son parcours à Marseille au printemps. Une ville passionnée de sport, chaleureuse et multiculturelle, selon Tony Estanguet, président du comité d'organisation des JO. La flamme traversera ensuite une soixantaine de régions avant d'arriver à Paris le 14 juillet. Les Jeux se tiendront du 26 juillet au 11 août 2024.
Merci Isabelle, on retrouve Isabelle Piboulot à 23h pour un nouveau point sur l'actualité. Non, Jean Messia, vous n'étiez pas censuré. C'est l'heure de l'actualité, c'est important aussi. Néanmoins, on vous laisse répondre donc à Jean-Michel Fauvergue sur Elisabeth Borne.
Yeah. Non, mais c'est-à-dire, moi j'en ai un peu marre, si vous voulez, de cette fatuité des élites dirigeantes qui considèrent finalement que les Français, c'est un peuple de débiles et de demeurés, et en fait qui n'acceptent pas les réformes uniquement parce qu'ils ne les ont pas comprises. Moi, je réfute radicalement cette analyse. Alors autrefois, le discours consistait à dire il faut écouter les Français. On va voir si les Français avaient besoin d'être écoutés, ils iraient voir un psychologue. Ils consulteraient pas des dirigeants. Maintenant, on parle de pédagogie, mais les Français n'ont pas non plus besoin d'un professeur. Parce que s'il y a au moins un sujet qu'ils connaissent, au moins dans ses grands principes, c'est bien le sujet des retraites qui les concerne. Et ils ont évidemment compris, même instinctivement, que ce projet, comme le rappelait Johan Usaï, leur réclame des efforts supplémentaires dont ils ne veulent pas. Alors on excipe du déficit de ce système pour faire passer la réforme. Mais le problème, c'est que le mot déficit, en réalité, il n'a plus aucune prise sur les Français. Pourquoi ? Parce que ça fait des dizaines d'années que le mot déficit est partout. Il y a le déficit social, le déficit budgétaire, la dette de l'État. Enfin bon, on a non seulement des déficits, mais c'est plus des déficits, c'est des excavations géantes, des trous béants dans tous nos budgets, que ce soit le budget social, le budget de l'État et même de certaines collectivités territoriales. Donc on ne peut pas, si vous voulez, expliquer aux Français que tous ces déficits abyssaux que nous connaissons, ça passe crème parce qu'on peut les financer, mais pour leur retraite... Là, le déficit devient un argument dirimant au nom duquel il faut qu'ils avalent les couleuvres que le gouvernement veut leur faire avaler. Les Français ont parfaitement compris que c'était niette.
Allez, Yohann, pour clore sur ce sujet.
Non, moi, je crois que les Français ont bien compris quand même qu'on avait un problème avec le budget dans ce pays. Enfin, il n'y a plus d'argent, on a 3 000 milliards d'euros de dette. Je crois que tout le monde a bien compris qu'on ne pouvait pas dépenser plus d'argent que nous n'en avions. Enfin, c'est le cas en ce moment, mais on ne peut pas aller au-delà. Mais en revanche, les Français, me semble-t-il, se disent que pour financer peut-être les retraites, il y a des économies à faire ailleurs,
il y a d'autres solutions.
Et c'est précisément pour cela qu'ils ne veulent pas faire d'efforts, parce qu'ils se disent il y a d'autres options. On pourrait faire des coupes budgétaires ailleurs, dans certaines aides sociales, par exemple. Nous sommes le pays qui distribuons le plus d'aides sociales. Peut-être peut-on couper dans certaines d'entre elles.
Je ne sais pas. Dans l'immigration, dans l'Union européenne,
au bout de. Allez-y,
c'est une option. On peut en débattre. Le gouvernement ne débat pas de ces sujets-là. Enfin, il y a différentes options et les Français ne veulent simplement pas travailler davantage. Mais ils ont bien compris, me semble-t-il, qu'il y avait un sujet avec le déficit dans ce pays. C'est incontestable, d'ailleurs.
Au fond, c'est vrai, Philippe Guibert, il y aurait certainement d'autres options, en tout cas à étudier, plutôt que de mettre tout de suite le report de l'âge légal à 64 ans.
Ah, dans le système de retraite, il y a d'autres options pour faire une réforme. Mais je voulais juste répondre à Johan. J'ai été directeur du service d'information du gouvernement. J'ai étudié les sondages sur 30 ans, sur les 30 dernières années. Et j'ai remarqué que les Français, on a plein de qualités, hein, c'est comme un grand peuple et un grand pays. Mais les Français sont toujours pour diminuer les dépenses qu'ils ne touchent pas, enfin dont ils ne bénéficient pas, et pour augmenter les impôts qui ne les concernent pas. Et vous faites ça catégorie sociale par catégorie sociale, et c'est vrai à peu près pour tout le monde. Donc de ce point de vue-là, il y a une petite schizophrénie quand même française sur les dépenses publiques et sociales. C'est-à-dire que tout le monde est pour baisser les aides sociales dont bénéficient les autres. Mais quand il s'agit d'aides sociales qui peuvent vous toucher ou toucher des proches, ils ne sont jamais d'accord. Donc, on a un problème de relation quand même à la dépense publique et sociale qui a été aggravé par la période de pandémie où on a l'impression que l'argent est redevenu magique et qu'il n'y avait plus de limite à la dépense. Le problème est que c'était une illusion. Alors après, sur la réforme des retraites, la pédagogie du gouvernement tombe à un moment où les Français sont dans un rapport au travail qui évolue. Mmh. Il y a crises du travail.
Non, mais les Français,
on peut en parler, mais
les Français peuvent pas.
De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler largement dans les jours qui vont venir, voire les semaines. On va parler de justice, bien évidemment, dans un instant après avec l'affaire de Siem, donc qui a été retrouvée morte. Le suspect a avoué l'avoir tuée. Mais avant, peut-être votre réaction sur ce tweet. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Ce tweet qui a enflammé, choqué même la toile. C'était en début d'après-midi aujourd'hui. C'est le tweet de la députée LFI Clémentine Autain. Elle l'a supprimé d'ailleurs, ce tweet que vous voyez à l'antenne au bout de 2 heures. On va le voir. Elle réagissait à l'annulation de l'élection du député Meir Habib par le Conseil constitutionnel dans une affaire de fraude électorale. Et Clémentine Autain, vous le voyez, a tweeté Mazel Tov. Alors, ça signifie en hébreu, alors au sens strict, bonne étoile, bonne chance. Ça signifie aussi, bravo. Félicitations, bravo. Voilà, en tout cas, elle renvoyait le député à ses origines juives. Alors, au vu des multiples réactions à son tweet, elle l'a supprimé et elle a écrit « Mon propos a heurté certains d'entre vous de bonne foi. Je préfère retirer mon tweet et éviter toute polémique inutile ». Alors, il y a eu beaucoup de réactions, je vous le disais, qui ont dénoncé un tweet antisémite. Est-ce que, au fond, la France insoumise, Clémentine Autain plus précisément, il y a un sujet, une obsession ou pas avec la question ?
C'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais c'est sûr dans la France insoumise, effectivement. Alors, je ne sais pas si ce commentaire-là est précisément antisémite. En tout état de cause, c'est quand même un clin d'œil pour l'électorat de la France insoumise, qui a quand même une grosse composante de l'électorat musulman. On l'a vu aux dernières présidentielles, et donc effectivement, ça interroge. Moi, ce qui m'interroge aussi, c'est l'absence de réaction sur les bancs de l'Assemblée, en tout cas des députés Renaissance, etc. J'ai pas entendu. Imaginez un député RN qui aurait mis, par exemple, « Alhamdoulilah » ou « Mabrouk » à un député maghrébin, d'origine maghrébine, qui aurait subi le même sort que Meir Habib. Mais que n'aurait-on entendu ? Voilà, je crois qu'il y a Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, en aurait avalé son marteau.
Philippe Guibert, nous ne sommes pas convaincus par votre démonstration.
C'est une fausse polémique.
Non. Oui. C'est une fausse.
Voilà, elle a quand même retiré son tweet.
Oui. Je pense que c'est une fausse polémique. C'est pas très adroit comme tweet, c'est pas très malin. Elle aurait pu, d'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait, elle l'a effacé, fin de la polémique.
Jean-Michel Fauvert.
Ça le serait une fausse polémique si, sur l'extrême gauche d'une manière générale, LFI en particulier, il n'y avait pas cette espèce d'odeur nauséabonde qui revient à chaque fois. Je rappelle que, en tout début de cette législature-là, on a eu une proposition de résolution proposée par les communistes, signée par un certain nombre de députés LFI. Qui visait à condamner l'État d'Israël pour apartheid. Il y a
une obsession sur un antisionisme qui cache
des choses qui sont assez nauséabondes.
Karim Abric, une polémique, elle a retiré son tweet, polémique terminée, une erreur, elle s'en rend compte, ou alors ça révèle autre chose pour vous?
Mais le problème, c'est que justement, ce genre de tweet peut faire un peu un double sens. Mmh. Et c'est pour ça qu'après, ça se met à se déchaîner sur les réseaux sociaux. C'est qu'on peut l'interpréter de plusieurs façons. Donc, probablement que non, elle ne voulait pas aller du côté antisémitisme. Mais effectivement, le fait qu'il y ait cette espèce d'ambiguïté est quand même problématique. Et il y a aussi une chose, on a l'impression peut-être, est-ce que c'était une espèce de règlement de compte personnel avec cet individu, ce monsieur, en fait? Parce que je sais qu'il y a quelques années, je pense que c'était en 2020, il avait réagi à la suite d'une vidéo et il avait marqué sur les réseaux sociaux « à cause des petites connes ». Donc ça, c'était en 2020. Et donc, elle avait réagi là-dessus. Est-ce que trois ans plus tard, on règle des comptes personnels? Cela dit, c'est vrai, quand on regarde à l'extrême gauche, il y a souvent ce parti pris pour la cause palestinienne. Donc, quand on envoie un message comme celui-là, est-ce qu'on veut finalement, on fait un clin d'œil justement pour ses partisans, mais en même temps...
Pardon? Et c'est pas la première fois non plus.
Plein d'œil et provocation aussi.
Il y a eu l'affaire de Marwan Barghouti qui a été affichée sur le fronton de la mairie de Stein, que d'ailleurs Clémentine Autain considère comme un prisonnier politique et non pas comme un terroriste.
On va avancer, Johan, pour conclure.
Non, mais écoutez, il y a des précédents quand même.
Voilà,
c'est-à-dire que ça ne serait pas une affaire s'il n'y avait pas de précédent, mais on va prendre un exemple très précis. Est-ce que vous avez l'impression que les députés de la France insoumise aient condamné en masse l'attentat qui a eu lieu en Israël il y a quelques jours? L'ensemble de la classe politique a réagi très rapidement pour condamner cet attentat. Est-ce que vous avez le sentiment que les députés LFI, effectivement, ont condamné massivement? Non. Il y a des précédents quand même. Donc on est au moins en droit de s'interroger sur le rapport qu'ont certains de ces députés avec l'État d'Israël. Regardez les réactions à la visite de Benjamin Netanyahou aujourd'hui à l'Élysée. Et le rapport à Israël et le rapport vis-à-vis de la communauté juive. On est en droit de s'interroger. Je veux terminer en disant qu'il me semble quand même que la France insoumise, de mon point de vue, est manifestement sortie du champ républicain depuis quelque temps. Parce que on a ce rapport-là, effectivement, on l'a évoqué, mais si vous regardez le rapport qu'ont les députés de la France insoumise vis-à-vis des forces de l'ordre, enfin, la police tue ces républicains, de dire quelque chose comme ça? Est-ce que vous avez le sentiment que ça s'inscrit dans le cadre républicain lors de manifestations? Quand vous appelez à marcher sur l'Élysée, est-ce que vous avez le sentiment que ces républicains... Moi, je crois que la France insoumise est sortie du champ républicain. Alors, il serait temps qu'ils se posent des questions et qu'ils reviennent dans ce champ républicain. Mais manifestement, ils en sont sortis.
La France insoumise sortie du champ républicain, Philippe Guibert.
Mais enfin, vous aviez envie de faire le procès de la France insoumise.
C'est-à-dire que c'est un peu le sujet. Pardon,
je réponds. Le rapport à Israël n'est pas la même chose que le rapport au gouvernement israélien.
Mais c'est pour ça que j'ai fait deux différences.
J'ai
bien fait la différence entre les deux.
Mais attendez,
vous l'avez noté.
Si vous pouvez parler que je ne peux pas vous répondre.
Allez-y, Philippe Guibert, vous répondez.
Parce que la critique du gouvernement israélien n'est pas forcément la critique d'Israël.
C'est précisément ce que j'ai dit.
Il faut faire attention à ne pas faire des amalgames dans tous les sens.
Monsieur Guibert, vous savez très bien que la France insoumise et sa critique d'Israël, elle ne date pas du gouvernement.
Sauf que la proposition
qui critique Israël.
Sauf que la proposition de résolution que je visais tout à l'heure, c'est pas le gouvernement d'Israël, il visait Israël en tant qu'État
qui faisait l'apartheid. Et surtout, ce qui est absolument scandaleux, un dernier mot, c'est pas effectivement la France insoumise n'a rien dit sur l'attentat abject qui a eu lieu à Jérusalem. En revanche, quelques jours avant, ils se sont confondus en génuflexion devant les morts du djihad islamique qui sont tombés au moment du bombardement de Jénine. Ça pose question.
Et effectivement, on en avait parlé. On va avancer. On va parler de cette terrible affaire à présent. Mahfoud H, c'est un délinquant récidiviste de 39 ans. Il a donc reconnu avoir étouffé Siem après une dispute. La jeune femme de 18 ans était portée disparue depuis le 25 janvier. Le suspect parle d'une prétendue liaison amoureuse, mais son profil et son casier judiciaire posent la question. Que faisait-il dehors? La justice a-t-elle fait son travail? On va en parler dans un instant, mais avant, retour sur le profil du suspect avec Amaury Bucco.
L'homme qui est passé aux aveux et indiqué aux enquêteurs où s'est trouvé le corps de la jeune Siem a un profil de multirécidiviste. Cet homme, il a été mis en examen. Il a 14 condamnations à son actif, 5 condamnations pour des atteintes aux biens, 8 condamnations pour des conduites de véhicules et enfin une condamnation pour vol avec arme. Alors, dans cette dernière affaire, eh bien, il avait été condamné en 2015 à 12 ans de prison et avait commencé à purger sa peine en 2012. La procureure de la République de Nîmes a indiqué par ailleurs que cet homme, il avait purgé l'ensemble de ses peines et qu'il devait comparaître libre dans une autre affaire devant la cour d'assises pour un vol avec arme. L'audience devait se tenir il y a quelques jours, mais comme cet homme était placé en garde à vue dans l'affaire de la disparition de Siem, eh bien l'audience avait été reportée à une date ultérieure.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la tristesse se mêle à l'horreur, mais aussi à la colère. Vous voyez ce qu'a déclaré le cousin de la victime cet après-midi.
Personne n'a la moindre indication comme quoi il y a la moindre relation entre elle et ce monsieur. Le crime passionnel, ça coûte moins. On sait tous que en faisant ça, entre guillemets, on va dire, il essaye d'enfouir la vérité. Mais on a confiance à la justice, on a confiance aux enquêteurs. On nous a dit que c'est les meilleurs de France qui ont été mis sur cette affaire. Et on a confiance que la vérité ressortira tôt ou tard.
Alors dans un instant, on va accueillir Inès Gauthier, elle est psychologue, pour nous éclairer un peu sur le type de profil du suspect. Mais d'abord, ces précisions. Il a d'abord exécuté sa peine de prison. Il a ensuite bénéficié d'un aménagement de peine progressive sous le contrôle du juge d'application des peines, selon la procureure de Limes. Donc il était condamné à 12 ans de prison, en plus de son casier judiciaire très chargé, 5 inscriptions, et il a fait que 3 ans sur les 12. Est-ce qu'on est en droit aujourd'hui de se demander si la justice, Jean-Michel Fauvergue, a fait son travail ?
On a une grosse problématique. Là, on est dans le vif du sujet. On a une grosse problématique avec la justice et on a une grosse problématique surtout avec l'exécution des peines. Avec l'exécution des peines. Parce que sur une peine de 12 ans de prison, qui est une peine, belle peine quand même, ne faire que 3 ans, il y a quand même une problématique importante. Et dans notre pays, on a à la fois, dans certains cas, des peines qui ne correspondent pas aux délits qui sont faits, et des gens qui sont multirécidivistes et qui repartent dehors, de manière générale. Et on a aussi et surtout l'absence d'exécution des peines. On parle plus d'aménagement de peine que d'exécution des peines.
C'était le cas pour
bien, mais, suspect. Mais bien évidemment. Et bien sûr, ce qui fait qu'on a des gens de ce profil-là, qui ont un profil aussi psychologique un peu particulier, on en parlera sans doute tout à l'heure, des gens qui sont dehors, qui sont... Et en plus, ils devaient être jugés pour un braquage, quelque chose
comme ça. Ça, exactement.
Ils devaient être jugés pour un braquage.
Le 1er février,
comment ce gars-là, cet agresseur-là, cet assassin maintenant, qui est dehors, comment se fait-il que, alors qu'il a purgé... 3 ans de prison et qu'il est condamné à 12 ans, donc il était sans doute en liberté conditionnelle. Comment se fait-il que sa liberté conditionnelle ne soit pas tombée à partir du moment où il a fait un braquage et qu'il ne soit pas réincarcéré? On a un vrai gros problème là-dessus.
Mais ce problème, il vient d'où? Il vient finalement d'une justice qui est débordée, d'un manque de place de prison, d'une idéologie?
On entend tout le temps cette est-ce que la justice est débordée? Est-ce qu'elle manque de moyens? Alors certes, elle manque de moyens et elle est débordée sans doute.
Mais
sur des affaires de cette... Il y a aussi une idéologie de quelques magistrats, mais qui influe sur l'ensemble du système, en particulier à travers l'école nationale de magistrature, etc. Mais c'est trop facile de dire ça aussi. La problématique, c'est que à un certain moment, on n'arrive plus à se concentrer sur les affaires qui sont les plus importantes. On ne voit pas la réalité des choses, on ne ressent pas la réalité des choses de la même manière que les Français la ressentent.
Il y a quelque chose qui m'interroge, c'est que où sont passés les gens qui vous expliquent que la prison est l'école du crime? Il y a un crime qui vient d'être commis là, non? Le mec était dehors, il n'était pas en prison. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que l'absence de prison, c'est le crime, c'est pas l'école du crime, c'est l'exécution du crime. Bon, ça c'est la première chose, donc ça c'est pour le côté idéologique. La deuxième chose, ce qu'il faut interroger, c'est la responsabilité des magistrats qui condamnent à des peines dérisoires ou qui n'appliquent pas les peines derrière.
Ils devraient rendre des comptes.
Bien sûr, les magistrats aujourd'hui sont le dernier corps d'État et peut-être même le dernier métier de France qui n'a aucun compte à rendre à personne. Vous êtes salarié dans une entreprise, vous commettez une faute, vous êtes convoqué pour un entretien préalable au licenciement et vous êtes viré. Si vous êtes flic et que vous sortez votre arme de manière impromptue, pareil, vous êtes immédiatement mis en garde à vue et il y a toute une enquête derrière, et la garde à vue de droit commun, hein, pas une garde à vue pour les policiers. Les magistrats peuvent libérer les pires des crapules et les pires des criminels, il ne se passe rien. Non seulement ils ne sont pas sanctionnés administrativement, mais ils sont encore moins sanctionnés judiciairement. Et quand un magistrat, comme c'est le cas de Juste Curtis, qui essaye effectivement de faire son métier, vous avez les juges du syndicat de la magistrature qui ne jurent que par l'indépendance de la justice, qui le jette en pâture et qui jette son indépendance en pâture dans un papier dans Libération où il critique ses méthodes. Donc cette instance, enfin ce corps d'État qu'est la magistrature de manière générale, doit être réformé à tout prix. il ne doit pas être politisé. On devrait interdire les syndicats dans la magistrature et on devrait rendre responsables les magistrats de leurs décisions. Et croyez-moi, le jour où les magistrats auront des comptes à rendre quand ils font des erreurs, ils y réfléchiront à deux fois avant de donner des peines ridicules ou de libérer des gens.
Interdire les syndicats dans la magistrature, ça a fait interpeller Philippe Bilière. Je vous donne la parole dans un instant.
Je peux répondre.
Oui. Je vous répondais dans un instant, juste avant, Yoann Uzaï.
Non mais... Pour revenir sur ce que disait Jean Messia, si les magistrats ont le droit de libérer certains individus avant qu'elles aient exécuté entièrement leur peine, c'est parce qu'ils ont le droit de le faire.
Non.
Alors si
ils interprètent le droit.
Non, pardon Jean Messia. S'ils le font, c'est qu'ils ont le droit de le faire. Alors si ça choque la société, à juste titre, me semble-t-il. Si ça interpelle et si ça nous interroge, mais alors modifions le droit. Faisons en sorte que les peines soient entièrement exécutées. Si c'est le problème, je n'en sais rien, je ne me prononce pas là-dessus. Mais le politique.
Et c'est pas lié à une complexité du droit.
Mais le politique a quand même la main sur la législation dans ce pays. Si on considère que le droit et que la législation est mal ficelée, alors il faut la modifier.
Vous avez raison, mais vous êtes quand même quelqu'un de suffisamment érudit pour savoir que les juges ont une latitude dans l'interprétation du droit qui est exorbitante du droit. C'est-à-dire que quand un juge...
Mais ça peut se changer, ça.
Un juge ne change. Vous savez très bien,
allez-y, concluez, Jean-Michel, parce qu'on va entendre Philippe Guibert et Inès Gauthier nous attend.
Très longtemps que les juges ne jugent pas exclusivement les prévenus et les coupables qui sont devant eux, mais ils jugent la société à travers l'histoire individuelle de l'individu. Donc en fait, les juges sortent de leur droit... De juger le coupable.
Il y a des juges de l'application des peines. Moi, je ne suis pas contre une responsabilité des magistrats, mais je voudrais connaître exactement les conditions dans lesquelles ils effectuent leur métier. Quelle est l'expertise qu'on pose sur une personne qui a fait, comme vous le disiez, un certain nombre d'années de prison et qu'on décide de libérer au bout de 3 ans, sur les 12 ans, si j'ai bien noté, pour faire de ma part, au bout de 3 ans. J'imagine qu'il y a des expertises, que le juge ne décide pas, voit le détenu, et puis se dit, tiens, lui, je vais le libérer, ça ne se passe pas comme ça.
Il y a une interprétation, quand même.
Oui, mais enfin, ça ne se passe pas comme ça, il ne fait pas ça au doigt mouillé. Ou alors, on est chez les fous. Donc, il y a des expertises qui sont faites, il y a des comptes rendus qui sont faits sur le comportement du détenu en prison. Et donc, ce qu'il faudrait, plutôt que de mettre en cause les syndicats de magistrats, je suis désolé, les magistrats ont le droit d'avoir des syndicats. Il n'y a que les militaires qui n'ont pas de syndicats dans ce pays. Les policiers ont aussi des syndicats. Je ne vois pas pourquoi les magistrats n'auraient pas de syndicats. Je ferme la parenthèse. Donc, ce qui serait plus intéressant, plutôt que de polémiquer sur des cas aussi graves, d'essayer de comprendre comment se prend la décision et éventuellement de la réformer, de renforcer les garanties de façon à ce qu'on évite des erreurs aussi tragiques.
Déjà, peut-être que Inès Gauthier, psychologue, qui est avec nous, va pouvoir nous éclairer, en tout cas dans cette affaire, puisque l'expert psychiatre qui avait examiné donc le suspect dans les colonnes du Parisien parle d'un sociopathe depuis l'adolescence. Inès Gauthier, bonsoir, merci d'être en liaison avec nous. Déjà, éclairez-nous, quand on parle d'un profil sociopathe, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, je vais vous dire, donc moi, avant d'avoir effectivement accès aux informations de cette expertise qui parle de profil sociopathique, moi, j'aurais simplement dit profil psychopathique. Je vais vous expliquer la nuance. C'est-à-dire qu'en fait, une personne dite psychopathique est quelqu'un qui est dans son impulsivité, qui est dans l'agir immédiat, qui a un déficit en termes de capacité à penser ses actes. Donc, sur le plan mental déjà, sur le plan intellectuel, qui a une incapacité à se projeter dans les conséquences de ses actes, et donc sur le plan émotionnel, à avoir de l'empathie, c'est-à-dire à imaginer les conséquences pour autrui, et même sur lui-même en fait. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui récidive régulièrement, c'est quelqu'un d'extrêmement intolérant à la frustration. Donc quand il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, qui le contrarie, ça va générer une agressivité importante chez cette personne, qu'elle va immédiatement traduire en acte, donc elle va casser quelque chose, elle va casser la figure de quelqu'un, elle va hurler, insulter, menacer, taper dans une porte, donner un coup de pied, voilà. La violence va immédiatement s'agir. Et donc ce sont des personnes, les psychopathes, où on retrouve en général un casier assez chargé avec un parcours délictuel effectivement qui commence en général vers l'adolescence, Donc de type vol, bagarre, etc., menace, risques variés. Alors que le sociopathe, lui, ok, il est aussi intolérant à la frustration et il se croit également au-dessus des lois parce que chez ces deux profils, la loi n'est pas intégrée, elle n'est pas intériorisée, les interdits sont bafoués sans aucun remords, scrupule, à part quand ça leur pose problème. Ce sont des personnes extrêmement égocentrées. Donc la prison, et encore, vous voyez que c'est limite parce que ce sont des personnes qui peuvent régulièrement être incarcérées, elles sortent et elles recommencent. Donc ça ne suffit a priori pas, mais c'est déjà un bon frein. Mais les sociopathes sont beaucoup plus calculateurs, ce sont des personnes qui vont s'arranger en général pour ne pas se faire prendre. Et donc c'est vraiment, ils ont tout un échafaudage comme ça pour pouvoir continuer à sévir. Le psychopathe a une stratégie assez grossière, il a des modes opératoires qui se repèrent facilement, il laisse des traces, des preuves, et en général, effectivement, il peut avouer assez vite si on le travaille un petit peu au corps.
Mais est-ce que ça veut dire que quand un expert psychiatre dit à la justice « voilà, cet homme est sociopathe », il y a donc des risques de récidive, à vous entendre. On le sait.
Il y a un risque de récidive important, effectivement, dans les deux cas, parce qu'à la limite, la différence sociopathe-psychopathe, c'est un peu du jargon psychopathologique. Ce n'est pas extrêmement important, en fait. L'important, c'est qu'effectivement, c'est une personne autocentrée qui est comme un enfant, qui veut juste la réalisation de ses désirs, de ses envies, qui est intolérant à la moindre contrariété. C'est des personnes qui peuvent vous poignarder un chauffeur de taxi parce qu'il va lui dire « maintenant, il faut me payer la course », et puis qu'il n'y avait pas pensé, et que ça le contrarie, il n'a pas envie de dépenser de l'argent. Donc, on va dire « mais c'est disproportionné ». Et oui, parce qu'en fait, il ne pense pas aux conséquences de ses actes. Sur le moment, il est juste débordé par une émotion. Non, on n'a pas implanté ni l'empathie, ni les interdits, ni les conséquences. Donc en fait, ils sont dans une forme de toute puissance avec un grand, grand sentiment d'impunité. Là où je rejoins les propos que je viens d'entendre qui m'ont paru très justes, c'est effectivement la lenteur de l'application de la justice. J'ai travaillé des années comme contrôleur judiciaire. Donc j'ai veillé à l'application des obligations lorsque les personnes étaient libres, mais sous surveillance, avec des obligations variées à remplir. Ça peut être se soigner pour l'alcoolisme, ça peut être trouver un travail, peu importe. Et en fait, quand les personnes ne venaient pas à leur rendez-vous de contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si elles remplissent leurs obligations, puisqu'on ne peut pas les surveiller, puisqu'elles ne viennent pas au rendez-vous. On ne les appelle pas immédiatement, on peut leur dire « monsieur, demain vous êtes en prison ». Non, parce que c'est ça la règle, hein. C'est une alternative à la détention, et si la personne dysfonctionne, on l'incarcère. Non, on envoie une première lettre simple, et puis si la personne ne se manifeste pas au bout de 3 mois, on envoie une lettre recommandée, et puis encore au bout de 3 mois, on envoie encore un truc. Donc en fait, ça...
Pourquoi, selon vous, ce mode de fonctionnement ? Est-ce que c'est lié aux moyens ? C'est lié à une idéologie, comme on le disait tout à l'heure ? Comment est-ce que vous avez vécu ces choses-là ?
Alors ça, j'avoue que je ne peux pas me prononcer malheureusement parce que je n'étais pas du tout dans la stratosphère des rouages de la justice à ce moment-là. C'était il y a plus de 10 ans. Et puis j'étais comme psychologue travaillant comme contrôleur judiciaire. Donc je ne sais pas exactement les raisons. Effectivement, la justice est débordée, on le sait, parce qu'il y a des milliers de cas tout le temps à traiter. Donc j'entends bien qu'au bout d'un moment, l'humain ne peut pas aller plus vite que la réalité des faits. Mais il y a beaucoup de cas à traiter. Mais effectivement, c'est très procédurier en fait. Alors ça, c'est peut-être propre à la France aussi, hein. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très administratif, c'est beaucoup de papiers, beaucoup de courriers, et effectivement avec une gradation dans le suivi du courrier. Et ça, je me disais déjà à l'époque, on se disait déjà que c'était un petit peu long. Maintenant, la prison n'est pas le Graal, encore une fois, surtout sur ces profils qui récidivent tout le temps, même quand ils vont en prison. Par contre, pour travailler avec des criminels de type psychopathe en permanence depuis 10 ans en groupe de parole à l'extérieur, et justement, ça fait partie d'une de leurs obligations de soins, que s'ils ne respectent pas, ils se font incarcérer. Là, par contre, ils apprennent la loi. Parce que c'est des groupes de parole, en fait, on a les deux versants qui leur manquent. C'est-à-dire qu'on a le versant répressif, c'est-à-dire tu viens, t'es à l'heure, tu coupes pas la parole, tu n'agresses pas les autres, tu n'insultes pas les gens du groupe, tu respectes le thérapeute. Donc en fait, ça les fait intégrer la loi, qu'ils auraient dû apprendre vers 2 ans et demi. Hein. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Donc, et en fait, ils apprennent, ils sont extrêmement courtois, ils s'excusent, ils préviennent quand ils peuvent pas venir, ils nous aident à ranger, etc. Donc ça devient des personnes adaptées, au moins dans ce cadre-là, mais ensuite ça se diffuse un petit peu, on le remarque. Ce sont même des personnes qui, quand ils finissent l'obligation de soins, mettons qu'ils ont eu 3 ans de thérapie dans ce groupe de parole, ils demandent parfois à continuer, parce que ça les a intéressés et que ça leur fait du bien. Et on voit vraiment des personnes qui s'adaptent petit à petit. Donc c'est faisable, mais il faut vraiment un suivi important.
Et justement, peut-être une dernière question, on arrive bientôt au terme du temps qui nous est imparti. Est-ce que la justice attache suffisamment d'importance aux expertises aux expertises psychiatriques, notamment dans le choix d'une décision? Est-ce que ça rentre effectivement bien en compte?
Alors, ça dépend énormément de la personnalité des magistrats et également des jurés qui vont être plus ou moins sensibles à ce qui se passe, qui peut-être dans leur vécu personnel vont avoir vécu quelque chose de similaire et vont trouver insupportable la situation ou le criminel qu'ils ont en face d'eux. Donc ça dépend tellement de facteurs purement humains, émotionnels et subjectifs qu'effectivement, chaque expertise ou enquête de personnalité peut être prise en compte ou pas et pesée dans la balance ou pas. En général, pour avoir aussi travaillé comme enquêtrice de personnalité et l'avoir présentée ensuite en cour d'assises, et ben effectivement, on voit quand même la réaction des jurés et on voit la réaction du président de cour d'assises. Donc on sait que c'est pris en compte. Mais ce qui est plus important, je pense, c'est l'aspect, en fait, c'est le deuxième versant, c'est que derrière le versant répressif, il faut le versant curatif, et c'est-à-dire comprendre le sens de ces passages à l'acte. Souvent, ce sont des personnes, comme tout le monde, hein, mais en plus, eux, ils n'ont pas intégré les interdits, mais ce sont des personnes qui sont dans un mal-être existentiel, qui ne sont pas satisfaits, qui sont frustrés. Attention, je ne suis pas du tout en train d'excuser leur passage à l'acte, mais on a tenté une explication. Et quand ces personnes vont mieux et trouvent des choses dans leur vie qui les valorisent, qui les calment, etc., en général, ils sont beaucoup moins dans la criminalité et dans la récidive.
Merci.
Il faut vraiment les deux versants à l'extérieur.
Merci beaucoup, Inès Gauthier, pour votre éclairage ce soir. Je le rappelle, vous êtes psychologue. Merci à vous d'avoir été en liaison en direct avec nous sur CNews. On continue d'en parler dans un instant. Il est 23h, l'heure de retrouver Isabelle Piboulot. On fait un point sur les dernières actualités.
Vous sentez-vous en sécurité là où vous vivez? 86% des Français répondent oui. Résultat d'un sondage de l'Institut CSA pour CNews. Dans le détail, les plus jeunes disent se sentir le moins en sécurité dans leur lieu de vie. Les 18-24 ans sont 30% à exprimer cette crainte, un sentiment partagé par les habitants des zones urbaines. Adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, Volodymyr Zelensky juge possible d'engager les discussions cette année. Lors d'un sommet à Kiev, le président du Conseil européen a affirmé son soutien. L'Ukraine, c'est l'UE, l'UE, c'est l'Ukraine, a déclaré Charles Michel. Mais le processus d'adhésion, ardu, nécessite des réformes et pourrait prendre des années. Le monde de la mode en deuil. Paco Rabanne est mort à l'âge de 88 ans. Le couturier espagnol s'est éteint dans le village de Porsal, près de Brest, où il vivait. Homme d'affaires, parfumeur, le créateur était connu pour son excentricité et sa vision audacieuse. Il avait commencé sa carrière en créant des accessoires pour Dior, Saint Laurent ou encore Cardin.
Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec vous, ce sera à 23h30 et on continue de parler de ce délinquant récidiviste de 39 ans qui a reconnu avoir étouffé Siem après une dispute. Je le rappelle, la jeune femme de 18 ans qui était portée disparue depuis le 25 janvier. Il a un profil judiciaire, très chargé. On se pose la question, qu'est-ce qu'il faisait dehors? Est-ce que la justice a-t-elle fait son travail? Jean-Michel Fauvergue, on entendait cette psychologue qui nous parlait de ce profil sociopathe, un profil de toute façon qui était amené à récidiver s'il n'était pas suffisamment bien pris en charge.
Oui, alors c'est encore plus inquiétant parce qu'il a un profil sociopathe. Les experts l'ont dit à la justice et malgré ça, il est dehors. Donc il y a un vrai problème. Le vrai problème, c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est l'exécution des peines en France. Et on parle de juge d'application des peines en France, mais la problématique de l'exécution des peines, à un certain moment, les juges sont là pour juger. Est-ce que l'exécution des peines, ça ne devrait pas revenir à l'exécutif. C'est-à-dire que plutôt que de laisser ça à des juges d'application des peines qui vont toujours dans le sens d'une remise de peine toujours plus importante, est-ce que, je pose la question, il ne faudrait pas à un certain moment redonner l'exécution des peines dans le mot exécution et exécutif à l'exécutif. Ça, c'est la première chose. Je tiens à dire d'ailleurs que dans d'autres pays, ce service de probation et d'exécution des peines est donné à des associations par délégation, par l'État, et sont contrôlés soit par le ministère de la Justice, soit par un autre ministère. Donc c'est quelque chose qui est faisable au niveau européen. Et la deuxième chose, c'est que la justice française, comme la justice des autres pays européens, repose sur deux principes qui sont quasi constitutionnels. L'indépendance du magistrat et l'individualisation de la peine. Et partant de ça, de ces deux principes-là, l'individualisation de la peine et l'indépendance du magistrat, eh bien, on a une espèce de liberté qui s'est développée dans notre pays depuis une trentaine d'années. Et plutôt que de considérer que pour certains magistrats qu'ils sont au service de la population pour une meilleure justice, eh bien les magistrats, pour certains, appliquent une doxa, appliquent un certain dogme qui fait que on en est rendu là aujourd'hui.
Ça veut dire, Karim Abric, finalement, que les magistrats sont trop livrés à eux-mêmes aujourd'hui dans l'univers de la justice ?
Je pense que c'est important qu'ils gardent cette indépendance, mais je pense que quand il y a des cas comme ceux, comme on constate en ce moment, ce serait bien qu'on puisse voir sur quels critères une telle décision de liberté a été posée. Parce que si on ne peut pas revenir sur les critères, mieux comprendre, ben comment on peut éviter par la suite que quelqu'un soit libéré alors qu'il ne devrait pas? Donc, il y a vraiment cette question-là. Donc, oui, sur l'application des peines, sur ce libre-arbitre, bon, des juges, oui, effectivement, ils ont une expertise et tout ça, mais on devrait quand même pouvoir en savoir un peu plus sur ces fameux critères. Cela dit, moi, je pense quand même que cette question de surpopulation carcérale, ça continue, ça fait en sorte que ça tue. Malheureusement, ça tue, ça blesse des gens ici en France, parce qu'il y a aussi cette pression. Il y a cette pression de libérer des gens parce qu'on voit qu'il y a des prisons qui sont débordées, il y a un manque de place. Donc ça, c'est un problème. Et il y a toute la question, je pense que la psychologue le disait bien, sur le suivi. Une fois que vous êtes enfermé, c'est une chose, mais est-ce qu'il y a un suivi psychologique? Est-ce qu'il y a des thérapies? Et ensuite, ben, on peut juger si vous avez évolué, si oui ou non, parce que cette personne-là avait un problème, et ce, depuis sa jeunesse quand même. Et ça, c'est, en tout cas, on pourra en reparler tout à l'heure, mais c'est toute la question de la délinquance. Quand on s'en occupe pas, et ça, on devrait s'en occuper dès le plus jeune âge.
Le problème, si vous voulez, c'est que le laxisme de la justice en France, il est systémique. Combien de fois on s'est retrouvé sur ce plateau avec des décisions de justice qui défient le bon sens et parfois avec des conséquences dramatiques? Quand là, plus récemment, quand les meurtriers d'Axel Daurier et le principal d'entre eux qui a été condamné déjà à une peine qui interroge, je crois que c'était 12 ans, et que son avocat annonce chez Jean-Marc Morandini, ou chez Pascal Praud, pardon, chez Pascal Praud, qu'il sera dehors au bout d'un an parce qu'il n'effectuera pas sa peine en prison, alors qu'on parle du meurtre atroce avec démembrement, etc., d'une jeune femme. Mais on est où exactement là? Enfin, je veux dire, c'est pas un problème simplement de Siem. Siem, bien sûr... C'est un meurtre, enfin en tout cas une affaire qui a ému la France entière. Mais hélas, ça n'est pas le seul. On ne compte plus le nombre de personnes qui ont commis des meurtres, qui ont violé, qui ont commis les pires crimes et qui sont dehors. Et non, parfois même quand ils sont sous OQTF, c'est-à-dire qu'ils n'ont même rien à faire sur notre territoire du tout. Alors moi je veux bien, si vous voulez, que l'histoire de la surpopulation carcérale, c'est le verrou, si vous voulez, avec lequel on va expliquer tout ce qu'il y a avant.
Mais ce que je dis, c'est que c'est inquiétant. Oui, mais c'est inquiétant aussi si on pousse les gens à les sortir parce que
les gens et Philippe Guibert vont répondre.
Il faut absolument, effectivement, créer des places de prison supplémentaires. Ça fait des années que je le dis. Mais à choisir entre des gens qui s'entassent, des criminels qui s'entassent dans des prisons, ou que ces criminels soient dehors pour tuer des innocents, j'en ai rien à faire que les gens s'entassent dans des prisons quand ce sont des criminels. La priorité, ça doit être la protection
des Français. Mais vous aurez la Cour européenne des droits de l'homme sur le dos. Philippe Guibert.
Moi, je voulais réagir parce que tu dis, Jean, la justice laxiste de façon systémique.
Bien sûr.
Bah, moi, ça ne me paraît pas évident du tout. Je vais te dire pourquoi. On a la population carcérale la plus importante depuis des années et des... Attends, je termine. Je développe mon propos. On a un nombre de personnes en prison qui n'a jamais été aussi important. Donc dire justice laxiste, à l'évidence, ça ne colle pas. Donc il y a un problème d'exécution des peines. Moi, je pense aussi que la surpopulation carcérale, à un moment donné, pèse sur les juges de l'application des peines, parce que la pression va quand même dans le sens, pardon, de libérer des places de prison, et c'est dramatique. Mais on ne peut pas dire que la justice soit laxiste, parce qu'on parle des décisions, évidemment, sur notre plateau et sur les autres. On parle de drame, on parle de tragédie. On ne parle jamais et on n'aborde jamais les chiffres. Moi, j'aimerais les avoir, les chiffres globaux sur la récidive. Donc, parce qu'il n'est quand même pas courant qu'une personne qui a commis des vols, même armée, passe au crime de cette façon-là.
Mais dans c'est son pas profil psychologique.
Donc après, il y a un autre sujet, je termine là-dessus, qui me paraît problématique, qu'on a abordé à chaque fois qu'il y a des faits divers, dramatiques, qui est celui de la santé mentale. Du suivi de la santé mentale. Non, c'est pas bon dos, c'est un élément essentiel. Et quand on parle des critères de la décision des juges, c'est un élément tout à fait essentiel. Or, la misère de la médecine, de la santé mentale, que ce soit en prison ou que ce soit plus généralement dans la société en France, est un problème majeur.
Oui, mais juste très rapidement pour répondre à vos deux points. La première chose, c'est que ce n'est pas parce que nous avons une surpopulation carcérale que cela signifie automatiquement que la justice est sévère. Nous avons une surpopulation carcérale parce que nous avons
moins de places
de prison.
C'est de dire qu'on n'a jamais eu autant de prisonniers depuis des années.
La construction des places de prison va à un rythme beaucoup moindre que l'ensauvagement de la société, l'explosion de la délinquance et de la criminalité. Donc c'est normal qu'à un moment, il y ait un engorgement. Mais ça ne veut certainement pas dire que la justice condamne plus fermement. Ça non.
Bah, elle condamne plus de gens, puisqu'il y a plus
de prisonniers. Johan Usaï, vous allez conclure sur ce sujet, et puis on va avancer ensuite. Johan.
Non, mais il y a une chose qui me semble assez évidente. C'est que si vous posez la question aux Français, les sondeurs l'ont fait très régulièrement, trouvez-vous que la justice est laxiste ? Une très grande majorité de Français répond oui. Dans la mesure où il me semble également que les politiques sont quand même censées appliquer une politique qui reflète l'opinion des Français, il me semble que nos responsables seraient bien inspirés de durcir peut-être les lois et de faire appliquer le code pénal d'une manière un peu plus stricte, avec plus de fermeté. Voilà, c'est une réflexion, mais qui me semble être une réflexion assez juste quand même.
Et de bon sens, il suffirait d'appliquer le code pénal.
Et Philippe Guibert disait une chose effectivement intéressante, Jean Messia a un peu rebondi dessus, vous dites effectivement, il n'y a jamais eu autant de prisonniers dans notre pays. C'est tout à fait exact, mais il faut se poser une question. Est-ce qu'il n'y a jamais eu autant de prisonniers parce qu'effectivement les magistrats sont plus sévères, ou est-ce que c'est parce qu'il y a plus de délinquance et de criminalité dans ce pays ?
Il y a plus de délinquance.
Que les chiffres montrent qu'il y a de plus en plus de violence dans ce pays. Donc il est normal qu'il y ait de plus en plus de personnes.
Et de plus en plus de trafic de drogue, justement. On y vient. Merci pour la transition, Johan. Puisqu'on parle de la lutte contre les trafics de stupéfiants à présent, avec ce premier bilan du ministère de l'Intérieur pour l'année 2022, et il dévoile que le nombre de mises en cause pour trafic et pour usage de stupéfiants a augmenté en 2022. Alors moins vite cependant qu'en 2021, les précisions de Maëva Damy.
C'est un premier bilan mitigé. D'après le ministère de l'Intérieur, les délits en matière d'usage et de trafic de stupéfiants ont augmenté en 2022, mais moins qu'en 2021. Concernant l'usage de stupéfiants d'abord, 249 800 crimes et délits ont été recensés en 2022, un chiffre en hausse de 13% après une augmentation de 38% en 2021. Puis concernant le trafic de stupéfiants, le ministère a dénombré 48 300 crimes et délits en 2022, un chiffre là encore en hausse, plus 4%, c'était plus 13% en 2021. Une évolution qui ne surprend pas ce représentant du syndicat Unité SGP Police.
Depuis quelques années, nous avons l'amende forfaitaire délictuelle qui est entrée en vigueur et qui est là pour lutter contre l'usage. Donc les services de police usent de cette pratique pour lutter contre l'usage. Donc les chiffres augmentent. En 2021, ça avait explosé avec l'entrée en vigueur de l'AFD. Ce sont des chiffres qui sont pour le moins normaux d'après moi.
Toujours d'après le bilan du ministère de l'Intérieur, il existe de fortes disparités selon les territoires. Pour ce qui est de l'usage de stupéfiants, le nombre de mises en cause augmente dans 19 départements. Pour les trafics, il progresse dans 32 départements.
Alors Jean-Michel Fauberg, c'est vrai que ces chiffres, ils nous sont vendus un peu de la manière suivante, c'est-à-dire que ça a augmenté, le trafic, la consommation, mais moins qu'en 2021, et puis parce qu'on a agi en verbalisant les usagers.
Alors, il y a deux réponses. Alors, c'est effectivement un drôle de satisficite que de dire ça a augmenté, mais attention, ça a augmenté moins. Mais ça a augmenté quand même. C'est pas un argument. La deuxième chose, l'amende pénale forfaitaire, ça a été réclamé par les... C'est d'abord appliqué dans beaucoup de pays, l'amende pénale forfaitaire. Pour les usagers, c'est appliqué dans de nombreux pays. Ça a été voté en 2008. Moi, je l'ai voté. J'étais député à cette époque-là. C'était une amende au départ de 300 euros. Il y a eu des. Par amendement, elle est descendue à 200 euros. On était quelques-uns à vouloir déposer un amendement pour la faire monter à 1200 euros, mais c'était mal vu à cette époque. Donc, elle est descendue à 200 euros. Et cette amende pénale forfaitaire, elle visait tout type de stup. Et peu importe la quantité, peu importe si celui qui faisait ça était multirécidiviste. Et je vais faire un lien avec le sujet précédent. L'administration de la justice, la direction des affaires criminelles et des grâces, dans une circulaire, a limité cette amende pénale fixe justement au seul trafic de stupes de cannabis et sur une petite quantité et au non-récidiviste. C'est-à-dire que l'administration, d'elle-même, par un excès de pouvoir qui n'a jamais été contesté, a limité ce qu'avait décidé le législateur. Et on en est là. En fait, en réalité, on est sur des errements de ce type-là. Alors aujourd'hui, pourquoi le trafic augmente ? Parce que le trafic de stupes, et en particulier du cannabis, eh bien, ne demande aucune spécialité, aucune spécialisation de la part de celui qui le fait. Et vous avez énormément de gens qui prennent le relais à partir du moment où un trafic est... Et ça rapporte énormément de fric. Donc, vous avez plein de gens qui prennent le relais à partir du moment où les réseaux se... Et quand vous cassez un réseau, quand vous êtes policier et vous cassez un réseau, eh bien, il se reconstitue immédiatement parce que c'est facile à faire et ça rapporte énormément d'argent. En plus, vous avez une criminalité dans ce type-là qui est une criminalité essentiellement... Pas que, mais essentiellement, une criminalité étrangère.
Mais moi, j'ai une interrogation, Yuen Uzaï. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs années, quand vous consommiez de la drogue, vous alliez en garde à vue. Aujourd'hui, oui. On vous met une amende, un timbre.
Oui,
amende.
Alors,
est-ce que ce n'est pas déjà...
Ce qui s'est passé... Non, mais il y avait... Excusez-moi, 15 secondes. Parce que je l'ai pratiqué.
C'est vrai qu'il y a un moment, le consommateur, oui. Il allait en garde à vue, il n'avait pas une amende.
Ce qui se passait avant, c'est que le consommateur allait en garde à vue et faisait ce qu'on appelle une injonction thérapeutique. C'est-à-dire que le dealer était relâché, on marchait sur la tête à un certain moment. Le dealer était relâché, on se gardait le consommateur qui, lui, partait devant le procureur de la République pour lui signifier une injonction thérapeutique. Tandis que le revendeur et le dealer, lui, étaient dehors. Donc ce système n'allait pas non plus. C'est pas bon.
Yuan Uzaï, parce qu'on sent aujourd'hui qu'il y a une pression politique pour dépénaliser aussi le cas.
Non, mais c'est intéressant la question des amendes, effectivement, parce qu'il faut aussi parler du taux de recouvrement de ces amendes. Et le taux de recouvrement des amendes, lorsque vous verbalisez le détenteur de stupéfiants, le taux de recouvrement de ces amendes est extrêmement faible. Plus d'une amende sur deux n'est jamais payée. Ah, je crois même que deux tiers des amendes, lorsqu'il s'agit de verbaliser le consommateur, deux tiers de ces amendes ne sont jamais payées. Donc on voit bien là d'abord qu'il y a un problème. Premier problème. Et ensuite, rappeler qu'effectivement, on en est à se féliciter en quelque sorte de la baisse de la hausse, qui est quand même révélateur de la situation dans laquelle nous sommes. Et rappeler que la lutte contre les stupéfiants est l'une des priorités, si ce n'est la priorité du ministre de l'Intérieur. Donc, il faut reconnaître qu'il a mis des moyens supplémentaires. Il y a une volonté, c'est indéniable, il y a une volonté du ministre de l'Intérieur. Mais malgré tout cela, ça ne suffit pas. Donc, il y a une forme d'impuissance politique quand même qu'on est contraint de constater aujourd'hui, parce que c'est une priorité du gouvernement et que malgré cela, eh bien, la hausse continue.
Philippe Guibert, cette impuissance du politique face à ces trafics de drogue qui gangrènent toujours plus nos villes, même nos campagnes aujourd'hui, vous l'expliquez comment ?
Mais tout simplement parce que la France est un des principaux, si ce n'est le principal, marché de la drogue en Europe.
Pas parce que la France est trop laxiste avec les trafiquants de drogue.
On a la législation la plus dure, là, on l'a fait mal appliquer, hein. Mais on est le principal marché de la drogue en Europe. Et ça date pas d'il y a 6 mois de Monsieur Darmanin, ça remonte quand même, ça commence à remonter à un certain nombre d'années. Exact. Et donc, on est un des pays où les petites mafias qui deviennent grosses de la drogue prennent de plus en plus de pouvoir, jusqu'à avoir le pouvoir dans un nombre de quartiers dont on parle, y compris non pas simplement à Marseille avec les quartiers nord, mais dans des villes moyennes, de plus en plus de quartiers sont tenus par des trafiquants de drogue. Donc c'est un cancer pour le pays. C'est un cancer, une gangrène, je ne sais pas quelle est la bonne comparaison, et qu'on n'a pas une politique d'ensemble. C'est-à-dire que Darmanin, effectivement, a mis des moyens et a eu une volonté d'affichage de résultats, mais ça fait longtemps, bien avant qu'on ait ces chiffres, qu'on savait, les spécialistes des trafics vous le disent, que le trafic n'a pas du tout diminué et qu'il a même tendance à continuer à augmenter.
Alors, dans ce contexte,
juste par une remarque, allez-y. Si vous me permettez, très courte, c'est vous disiez il y a une pression politique vers la dépénalisation. Il n'y en a aucune en France.
Bah, le maire de écologiste de Beck, ce soir, qui a écrit
tout
à Emmanuel Macron...
Le, oui, refuse
c'est
la discussion.
C'est pas vraiment une pression. Pression. Bah, il y a le CESE, qui s'est prononcé en faveur de la dépénalisation.
Il n'y a jamais eu de débat.
Dépénalisation, légalisation.
Légalisation.
Il n'y a jamais eu de débat en se fondant sur les expériences étrangères, où on trouve des résultats qui sont parfois catastrophiques, d'autres fois où il y a des choses intéressantes qui se passent. On n'a jamais fait en France un bilan vraiment sérieux en prenant un peu de recul, en se disant qu'est-ce qui marche à l'étranger, qu'est-ce qui ne marche pas. Et on n'a jamais eu une politique d'ensemble de lutte contre ce cancer ou cette gangrène, j'hésite entre les deux termes.
Parce qu'on peut le rappeler.
On fait de l'affichage.
Ça peut paraître une évidence, mais c'est la dangerosité, de ces produits. C'est terrible quand on tombe dans le dans
la question. En fait, ce qui est terrible, c'est
un témoignage. On va voir un témoignage dans un instant.
Le problème, si vous voulez, enfin, il y a quelque chose dont on parle jamais, c'est que la drogue, enfin l'économie de la drogue, c'est le carburant financier du séparatisme. C'est-à-dire que l'économie souterraine que nous avons en France est principalement agie par les trafics de drogue et l'argent de la drogue. C'est ça qui permet en fait de faire vivre un certain nombre de quartiers. Et c'est pour ça aussi que le gouvernement et tous les politiques qui se sont succédés ont tant de mal à le démanteler. C'est que quand vous avez aux côtés des aides sociales qui pour certains peuvent paraître dérisoires, aux côtés de ce que rapporte l'argent de la drogue, si vous touchez à ça... Bah, vous touchez à toute une économie dont les parties prenantes, en général, ne se laissent pas faire, et avec des explosions sociales derrière et des explosions de quartiers qu'aucun gouvernement ne veut assumer en réalité.
Non, c'est pas la réalité des choses.
Donc il y a une superposition, si, parce que, attendez, vous savez très bien, vous avez été un grand flic, et vous savez très bien que dans ces quartiers, les policiers savent très bien qui sont les têtes de pont, savent très bien, tout le monde est identifié en fait. Mais pourquoi on ne les arrête pas? Pourquoi on ne les met pas à l'abri pour très longtemps, précisément parce que précisément parce que derrière il y a une paix sociale qui
Jean-Michel Fauvergue. Si je peux donner 2-3 précisions, le trafic de drogue dans les cités ne sert qu'une infime partie, et en partie les trafiquants et bien évidemment les trafiquants, leurs familles éventuellement si elles sont complices, etc. Mais qu'une partie, ça fait pas vivre la cité, c'est faux de dire ça.
La cité
est prise en otage par ce trafic de drogue. Par contre, là où je suis d'accord avec vous, c'est que l'argent énorme de ces trafics de stupes est investi dans l'économie licite. Et à un certain moment, il y a des pans d'économie licite qui deviennent une économie non pas noire, mais grise. Et alors, ça devient dangereux pour notre pays comme tous les autres.
Permettez-moi de...
Allez-y, parce qu'on a Gabriel, un ex-addict à la cocaïne, justement, qui va témoigner.
Vous posez une dernière question rapide. Vous dites qu'effectivement, ces quartiers sont pris en otage par les trafiquants. Alors, vous qui avez été policier, comment vous expliquez que lorsque les policiers entrent dans la cité, les habitants ne se mettent pas du côté de la police pour arrêter les trafiquants? Ils se mettent du côté des trafiquants pour empêcher qu'ils soient arrêtés. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce paradoxe?
Où est-ce que vous avez vu ça? Ils sont sous la...
Mais vous rigolez ou quoi? À chaque fois que les policiers...
Vous avez vu le film McNord?
Si vous êtes en train de quand la police rentre dans les quartiers, elle est accueillie à bras ouverts sous les hurrahs, vous allez faire rigoler la France entière.
On vous dit pas que les cités sont accueillantes. C'est pas ça qu'on vous dit.
Mais ils ne sont pas complices, les trafiquants.
Le commerce des stupes, ça inonde pas toute la cité, ça inonde quelques-uns qui font du fric et qui font énormément de fric.
Dans ce cas-là, la cité doit les rejeter. C'est pas ce qu'elle fait.
Mais vous connaissez le principe d'une mafia quand même, Jean. Vous connaissez le principe.
Allez, oui, bien sûr.
Quand vous avez des types armés qui sont à l'entrée du quartier,
vous concluez.
Vous croyez que les habitants, ils vont dire,
pardonnez-moi, messieurs, parce qu'on va avancer. Pour rappeler quoi? Pour rappeler les dangers aussi de la consommation de drogue. Parce que derrière, ça coûte de l'argent. Il y a des gens qui en deviennent malades et ça coûte de l'argent également à la sécurité. C'est surtout des drames humains. On va en parler avec Gabriel, ex-addict à la cocaïne, qui nous a rejoint. Bonsoir Gabriel, merci d'être en liaison avec nous ce soir. Donc, vous avez entendu une discussion houleuse autour de la question du trafic de drogue aujourd'hui en France. On le disait, de plus en plus de consommateurs. Dans votre expérience, donc vous êtes ex-cocaïnomane, je le disais, cela a toujours été facile pour vous de vous procurer du stupéfiant en France?
Oui. Légère précision, je suis belge, mais je connais aussi très bien la France et je peux confirmer que quel que soit le territoire, malheureusement, et même plus large au point de vue européen, c'est extrêmement facile de se procurer des drogues, quelles qu'elles soient. Là, on parle de cocaïne dans mon cas, mais les autres drogues dites récréatives, mais qui sont extrêmement dangereuses, comme la MDMA, l'ecstasy, etc., sont extrêmement faciles à trouver et à se procurer, ouais.
Et vous n'avez jamais eu peur de la police, de la justice? Ça ne vous a jamais dissuadé d'arrêter?
Non, c'est pas ça qui dissuade, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'addiction, c'est une maladie et c'est quelque chose d'incontrôlable lorsqu'on est dedans. Évidemment, on va faire attention quand c'est des produits illicites à pas faire n'importe quoi et à éviter de croiser la police ou d'avoir des comportements qui peuvent être suspects. Mais je pense que pour un addict, et quel qu'il soit, et là on parle de drogues psychoactives comme la cocaïne, mais l'alcool en est une aussi. Quand on est vraiment malade pour une consommation,
je vais dire la première chose qu'on a envie de faire et pour laquelle on ne peut pas résister, c'est de consommer. Donc, je vais dire que la législation, la loi, la police, ce sont des choses qui sont complètement secondaires, voire même oublié complètement du malade, quoi.
J'évoquais tout à l'heure le maire écologiste de Bègles, hein, qui a créé Emmanuel Macron pour lui proposer que sa municipalité devienne un territoire d'expérimentation pour la culture, la consommation et la vente du cannabis récréatif. Est-ce que vous, en tant qu'ex-cocaïnomane, vous différenciez la prise de drogue entre du cannabis et de la cocaïne, par exemple ?
Non, pas du tout. C'est comme je disais tout à l'heure. En fait, j'ai été aussi addict à l'herbe, mais ça a duré beaucoup moins longtemps. C'était il y a une dizaine d'années. Et déjà, la différenciation entre drogue dure et drogue douce, les psychiatres vous diront qu'ils n'aiment pas ça parce qu'en réalité, une drogue, c'est une drogue. Ça agit de la même manière sur le cerveau. On la consomme de la même manière pour les mêmes raisons. Du coup, le cannabis, quand j'en suis sorti, j'ai eu des syndromes de sevrage qui étaient extrêmement puissants, que j'ai même pas vécu lorsque j'ai arrêté la cocaïne. Donc, moi, j'ai eu 2 semaines de nuit blanche, 2 semaines de sueur et de cauchemars que j'ai jamais connus avec l'arrêt de la cocaïne, par exemple.
Et on le voit de plus en plus de consommateurs en France. Comment est-ce qu'on arrive comment vous êtes arrivé à consommer de la drogue?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'addiction, c'est une maladie des émotions. Donc, ça démarre d'un terrain émotionnel de choses qu'on a accumulées, des traumas qu'on n'a pas su régler ou sur lesquels on n'a pas su passer outre. On aime aussi, du côté des ex-addicts ou même des médecins, dire que c'est une maladie du lien. Du coup, en général, ça vient traditionnellement de l'enfance, hein, parce que c'est là qu'on absorbe le plus et qu'on vit des choses comme des blessures assez profondes. Et en général, c'est lorsqu'on va les revivre plus tard ou même jeune, hein, lorsque ça devient trop difficile à supporter, on fait la rencontre du produit. En général, on cherche un moyen de s'extirper. Ça peut commencer avec des écrans, avec des jeux vidéo, avec du tabac. Mais le jour où on tombe en contact avec une drogue qui va, au niveau chimique, venir combler un trou ou bien atténuer une douleur, ce qui était mon cas, vraiment le principe de s'assommer en fait pour déconnecter de la réalité. On va le faire une fois, deux fois, trois fois, on voit que ça marche et que ça vient combler un peu ces blessures et ce vide qu'on avait au fond de nous. Et puis après, comme on va consommer plusieurs fois et qu'il y a un processus qui agit au niveau du cerveau, on va devenir dépendant.
Aujourd'hui, vous faites de la prévention, notamment sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous disent les jeunes qui viennent vous voir? Quel mal-être vous sentez chez eux?
Oui, c'est ça. Je parle beaucoup sur LinkedIn parce que c'est un réseau professionnel et qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de voir ces sujets-là là-bas. Et moi, c'est une manière de partager un message de montrer qu'on peut s'en sortir, que c'est OK d'avoir une maladie parce que c'est une maladie et qu'il faut en prendre conscience. Et du coup, en parlant, j'envoie des messages qui parfois vont être une accroche pour ces jeunes-là, entre 20 et 35 ans, mais même des personnes plus âgées, et qui vont dans mon discours peut-être se reconnaître et qui sont dans cette situation-là. Et du coup, ils viennent me dire « Ah mais tiens, je me suis reconnu dans ton histoire et je viens de réaliser en fait que peut-être que j'avais un problème et maintenant je vais commencer à y réfléchir et peut-être à en parler. » Et donc, c'est beaucoup de témoignages de personnes qui me disent « Le fait que tu prennes la parole encore plus sur une plateforme professionnelle comme ça, où les gens sont un peu plus corporate et compagnie, ça m'aide à déculpabiliser et à peut-être moi aussi un jour prendre la parole là-dessus. » Mais surtout, et ce qui est très important, c'est de montrer que c'est une maladie comme une autre, on peut s'en soigner et moi je porte un message d'espoir. Ça fait 4 ans que je suis plus addict ma vie va très bien et c'est le message que j'ai envie de faire passer et c'est ça qu'ils viennent me dire, quoi.
On dit souvent que la répression, il ne peut pas y avoir de répression sans prévention. Est-ce qu'aujourd'hui il vous semble qu'il manque de prévention sur la question de la drogue chez les jeunes ou des efforts ont été faits?
Non, ça manque de prévention partout, en France, en Belgique et ailleurs, et même au plus large, au plus profond du terme, en fait. Moi, je dirais même qu'une société en bonne santé mentale, monsieur en parlait tout à l'heure dans le sujet d'avant, une société en bonne santé mentale, la priorité, je pense que c'est en plus de la prévention par rapport aux produits stupéfiants, c'est d'apprendre aux gens à mieux se connaître, à mieux gérer leurs émotions, à ouvrir la parole, à permettre aux gens d'avoir des personnes de confiance autour d'eux pour pouvoir exprimer des choses qu'ils vivent, que ce soit enfants ou adultes, parce que ce sont ces choses-là, les traumas qu'on va développer et sur lesquels on ne va pas avoir la possibilité de s'exprimer, qui un jour, une fois qu'on aura un trop-plein, vont probablement, et même plus que probablement, conduire à des addictions si on a des prédispositions à ça.
Merci Gabriel pour votre témoignage ce soir en direct sur Soir Info Weekend. Ex-addict donc à la cocaïne, vous faites de la prévention aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. On peut vous trouver comment d'ailleurs pour ceux qui souhaiteraient rentrer en contact avec vous ?
LinkedIn, Gabriel Raskinet.
Merci à vous, excellente soirée. Merci Gabriel, on entendait merci Philippe Guibert parler de la prévention et Karima, un manque de prévention aujourd'hui puisqu'on parlait de répression, visiblement pas toujours suffisante, mais la prévention aussi, elle non plus, ne semble pas suffisante.
Oui, absolument. Ça prend des messages d'intérêt public, des messages particulièrement qui s'adressent aux jeunes, parce que souvent la consommation commence à l'adolescence. Et d'ailleurs, je salue ce témoignage de Gabriel, parce que oui, il faut entendre ces personnes qui vivent avec ce problème, qui ont vécu, qui ont réussi à s'en sortir aussi, qui peuvent parler des dangers, tout ça, mais vraiment une expérience bien sentie. Cela dit, effectivement, donc sur la question de la prévention, mais en même temps, je pense qu'il y a ce tabou un peu en France hein, sur la question de la drogue, c'est absolument que il y a le tabou et pour s'attaquer à ce problème, ça prend des moyens parce qu'on le sait que le commerce de la drogue sont des milliards de dollars qui se brassent, donc ça prend effectivement des moyens financiers, ça prend du courage politique, ça prend une volonté politique aussi de le faire et ça prend un courage pour briser ce fameux tabou. On en fait un enjeu moral, oui, on peut se questionner là-dessus, mais il y a quelque chose de très pragmatique quand on regarde ce qui se passe justement, on a parlé de certains quartiers, qu'est-ce qu'on décide de faire comme réponse policière aussi à ça. Et je pense que plus on est laxé sur cette question, plus les choses empirent. On le voit du côté de la Belgique en ce moment. L'Europe est rendue véritablement une plaque tournante, particulièrement pour la cocaïne aussi. Donc ça, c'est assez inquiétant ce qui se passe dans les ports. On voit qu'il y a des dockers, des employés ouais. qui sont menacés parce que l'argent est immense. Donc on va essayer de les soudoyer, on va les menacer, on va menacer leur famille. Donc il y a cet enjeu. Combien de personnes sont là aussi pour vérifier les fameux conteneurs? Donc ça reste quand même un problème. Et plus largement sur la légalisation, écoutez, je fais quand même une distinction. Il y a effectivement dans différents pays la question de la légalisation du cannabis. C'est aussi une question de, j'allais dire, pour le produit. C'est que les produits en circulation, quand le jeune homme Gabriel parlait qu'il avait eu certains problèmes, c'est qu'avec le marché noir, on va se retrouver souvent avec des produits extrêmement toxiques. Donc, c'est pas nécessairement bien beau de dire ça, oui, la légalisation, tout ça, mais c'est quand même un enjeu que vous allez avoir des produits souvent de meilleure qualité, qui sont peut-être moins nocifs pour la santé. Et l'argent qui est recueilli, oui, c'est un paradoxe, mais va servir aussi pour la prévention, pour aider les personnes qui ont justement ces addictions. Donc, bref, il faut en parler, avoir une discussion quand même apaisée là-dessus.
Il est 23h30, passé de une minute, l'heure de retrouver Isabelle Piboulot. Le rappel des titres, Isabelle.
Ah non, mais c'est à vous en France. C'est ça.
Emmanuel Macron a réuni son conseil de la politique nucléaire à l'Élysée. Le chef de l'État souhaite tenir le cap de la relance accélérée de la filière, un chantier prioritaire face aux crises énergétiques et climatiques. Pour l'heure, la présidence n'a pas fait d'annonce sur le calendrier de construction de 6 nouveaux réacteurs EPR2. Les premières mises en service doivent avoir lieu d'ici 2035 au plus tard. 2,2 milliards de dollars à l'Ukraine de la part des États-Unis. Une nouvelle aide militaire incluant des roquettes, ce qui pourrait quasiment doubler la portée de la force de frappe ukrainienne contre les Russes. Par ailleurs, la France et l'Italie livreront au printemps un système de défense sol-air pour aider l'Ukraine face aux attaques de drones, de missiles et d'avions russes. Le réalisateur iranien Jafar Panahi, libéré sous caution. Il était emprisonné depuis près de 7 mois en Iran. Le cinéaste de 62 ans avait entamé une grève de la faim il y a 2 jours pour protester contre ses conditions de détention. Jafar Panahi avait été arrêté le 11 juillet pour propagande contre le système, soit 2 mois avant le début de la vague de contestation en Iran.
C'est vachement important.
Merci Isabelle Piboulot. Bonne soirée, prochain train, point sur l'actualité. Ce sera,
prochain train, c'est pas sûr, attention. Ouais, prochain train, j'ai un doute.
Mais... Exactement, ce sera à minuit avec Simon Guilin. Il nous reste 8 minutes, on va terminer de parler cette question des trafics de grog, consommation, trafic en hausse, on vous le disait pour 2022 selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. On parlait de la question de la prévention avec un témoignage d'un ex-cocaïnomane, Philippe Guibert, on va vous entendre. Et puis Jean Messia, parce que alors la question de la prévention, pour vous, ce n'est pas l'essentiel visiblement, mais vous nous expliquez pourquoi.
Sur la prévention, en France, le sujet n'est pas abordé par l'État et par les grandes agences de santé, ou très peu. Pour une raison très simple, c'est que les indicateurs de santé publique au ministère de la Santé, comme partout en Europe et dans le monde, sont fondés sur l'espérance de vie en bonne santé. Or, la drogue, en particulier le cannabis, ne fait pas de mort. Elle fait des dégâts considérables en matière psychologique, en matière d'échec scolaire. Elle peut avoir des conséquences sanitaires. Mais à la différence du tabac et de l'alcool, sur lequel se sont concentrées les autorités sanitaires, parce que ça fait beaucoup de morts par an, les drogues n'ont jamais été abordées de la même façon pour les pouvoirs publics. Ce qui explique qu'il n'y a pas du tout une prise de conscience en France, dans la société, sur les drogues qui soient comparables à la prise de conscience qu'il y a eu sur le tabac à partir de la loi Evin et sur l'alcool à partir d'un certain nombre de campagnes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un verre ça va, deux verres, trois verres, bonjour les dégâts. Il n'y a pas eu de communication publique.
C'est normal, c'est interdit.
Et il n'y a pas eu de communication. Ben oui, mais c'est pas
interdit, vous pouvez l'acheter, le tabac aussi.
Ben oui, mais c'est justement un mauvais argument. Genre,
sur un produit qui est interdit, c'est absurde.
Mais non.
Remarquez, à l'époque où les clandestins travaillent.
Ben oui, mais c'est toute la bêtise du système. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de prévention. Précisément parce que c'est interdit. C'est complètement stupide parce que, du coup, on a perdu la bataille de la drogue. On a perdu complètement la bataille. C'est trop tard sur le cannabis.
Le cannabis, ça peut être très, très grave sur les adolescents.
C'est justement là
sur la question de prévention.
On a perdu.
Ce que vous avez dit est précisément l'erreur de
l'histoire. On s'entend plus, chacun son tour.
On a perdu la bataille, sans doute, de la prévention, comme d'ailleurs la bataille de la prévention
est perdue
sur plein d'autres sujets.
La consommation, on est le premier pays consommateur en Europe.
Parce qu'à force de vouloir faire du bisounours à travers tout ce qui est prévention,
mais non, vous vous trompez complètement.
Avec les frères de quartier, les associations de quartier, les conseillers, les médiateurs, les médiatrices, les perpendiculaires, et je ne sais quoi d'autre.
Vous êtes pas sur le problème.
Non, non, mais c'est exactement ça.
Jean-Messia, c'est bisounours la prévention pour vous ?
Moi, je pense que si vous voulez, la prévention est sans doute indispensable, mais dire qu'aujourd'hui, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, dans tous les domaines, on n'a pas de prévention, c'est être aveugle aux milliards qui ont été dépensés dans toutes les formes de prévention, que ce soit de la délinquance, de la criminalité, de la drogue, du tabac, enfin de tout, quoi. Maintenant, quand ça...
Mais c'est vous savez, la changer le regard sur la cigarette
la prévention
et même sur l'alcool dans un pays qui a une vieille tradition de consommation d'alcool.
La prévention
et donc on n'a pas fait la même chose sur les drogues.
La prévention, c'est une des briques idéologiques du système gaucho-progressiste qui nous gouverne. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, la prévention, c'est quelque chose dans laquelle on met des milliards qui ne marchent jamais à elle toute seule, parce que derrière
le tabac et l'alcool, derrière, ça a très bien marché.
Derrière le volet répression, il est abandonné. Et ensuite, quand la prévention ne marche pas, on vient toujours vous expliquer que parce qu'on n'a pas été assez loin dans la prévention. C'est une idéologie. Aujourd'hui, ce qui pêche, ce n'est pas la prévention dans laquelle, encore une fois, nous avons beaucoup investi, c'est la répression. C'est les caïds de quartier qui installent des checkpoints pour rentrer. Ils n'ont pas besoin de prévention, ils ont besoin de prison. C'est pas pareil.
Johan Usaï, pour conclure sur ce sujet, la répression, vous nous le disiez, c'était un cap affiché par le ministre de l'Intérieur.
On ne peut pas dire que la répression ne soit pas suffisamment forte en France. Concernant la consommation, nous sommes le pays qui avons la législation la plus stricte en la matière.
Mais c'est en fait
pas
appliqué.
Donc vous voyez bien de ce point de vue-là, c'est un échec qui est flagrant, parce que effectivement les dealers, il est certain que malgré le fait que ce soit la priorité du gouvernement, ça ne porte pas ses fruits. On a vu les chiffres, c'est une certitude, parce qu'encore une fois le marché est tellement vaste. La question de la légalisation, c'est quelque chose qui est tabou en France, si vous voulez. Pourquoi ne pas débattre des choses ? Philippe Guibert l'a dit, dans le sens où on voit bien que la politique que nous menons depuis 30 ans est une politique... Non seulement ça ne fonctionne pas, mais les choses...
Empire.
Donc, à un moment donné, il faut quand même essayer de s'interroger. Je ne dis pas de changer de politique, mais s'interroger sur les politiques à mener et le faire sans tabou. Je ne dis pas qu'il faut légaliser le cannabis. Je dis que ça mérite au moins, me semble-t-il, un débat calme, serein et apaisé.
Et le mot de la fin pour Karima.
Oui, mais j'allais dire, et quand on s'attaque aux consommateurs, c'est que c'est vraiment au niveau des deals, des points de deal, ça, c'est vraiment le cœur du problème. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, là, quand on donne des amendes, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est que finalement, on va s'attaquer aux personnes les plus vulnérables. Les trois quarts de personnes qui consomment la drogue chez eux, dans des quartiers BCBG, vont jamais avoir de contravention. On ne va pas les retrouver. Donc, ça va être les personnes les plus vulnérables dans la rue à qui on va aller coller une contravention, exactement, une amende, et ils ne seront pas capables de la payer. Alors qu'on parle vraiment d'un marché de milliards de dollars. On parle d'endroits où l'insécurité est énorme, grandissante dans certains quartiers parce que c'est dur, les gens sont armés, les gens, il y a une violence aussi associée au trafic de la drogue et c'est là le cœur du problème.
Allez, il nous reste un peu plus de 2 minutes. On va rendre hommage au créateur Paco Rabanne, surnommé le métallurgiste de la mode par Coco Chanel, qui est décédé aujourd'hui à l'âge de 88 ans. Avec ses robes légendaires en côte de maille, le couturier a ouvert une ère nouvelle. Voyez ce sujet de Sarah Fenzari.
Être allumé, c'est génial. C'est mieux être allumé qu'éteint.
Un petit grain de folie pour un pas de géant dans la mode. Personnalité majeure de la haute couture, sa vision était audacieuse, révolutionnaire et provocatrice, véhiculée par une esthétique unique.
La haute couture sert de laboratoire d'essais, de prototypes.
Forgeur ou plutôt forgeron, à l'ère du Space Age, il est le premier à utiliser un matériau devenu, aux yeux du public, sa marque de fabrique. Des plaques de métal assemblées à la main à l'aide d'une pince et d'un chalumeau.
J'avais demandé à Paco Rabanne de m'en confectionner une et effectivement j'avais une tenue métallique qui pesait 16 kilos. Et au lieu qu'on m'envoie des, je sais pas, une couturière, un couturier, on m'envoyait des ouvrières avec des tenailles.
Surnommé le métallurgiste de la mode, connu pour travailler de manière singulière et parfois même originale, on lui doit notamment les robes en sequins, façon disco. Mais après le succès vient les déboires. Lorsqu'il a décliné sa célébrité en parfum, il se perd dans ses errances mystiques qui entretiendront son mythe.
J'ai été une prostituée au XVIIIe siècle.
Un couturier qui voulait en découdre, Francisco Rabadeña y Cuervo, dit Paco Rabanne, s'est éteint à l'âge de 88 ans.
Il vaut mieux être allumé qu'éteint. C'est les premiers mots de Paco Rabanne, c'est ce qu'il disait. Vos souvenirs,
c'est joli. Je préfère garder le souvenir de la robe, même si elle faisait 16 kilos, ce que j'ignorais de Françoise Hardy, ce côté un peu psychédélique du début des années 70, qui était fort sympathique, plutôt que le Paco Rabanne un peu mystique de la fin.
Et Karim Abrik, un souvenir du parfum de Paco Rabanne.
Mais oui, mais parce que, vous savez, Paco Rabanne, le nom, bon, les robes, bien sûr, sont connues à travers le monde, mais il y avait aussi les parfums, et je pense que de ma génération, tous les pères de famille ont porté du Paco Rabanne.
Merci beaucoup à tous les quatre. Jean Messia, le mot de la fin, Jean Messia, Paco Rabanne, parce que je savais
le mot de la fin pour Jean Messia, c'est risqué.
C'était 10 secondes, il nous reste 10 secondes.
C'était une époque magnifique. Maintenant, vous avez Iseux et Sandrine Rousseau. C'est
bien. Bon, voilà.
Allez, ça s'est fait.
Merci en tout cas, un grand merci à tous les quatre.
Merci à vous. Allez,
merci Johan, merci Jean-Michel, merci Jean Messia, merci Karima, merci Philippe. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue bien évidemment sur CNews. Vous retrouverez à minuit Simon Guillain pour l'édition de la nuit. Excellente nuit et soirée sur notre antenne. À très vite.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president. You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.